Saluton.
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 Saluton. Saluton.
Saluton al ciui. Bonjour à tous. C'est aujourd'hui la 22e édition de Saluton, émission consacrée à l'espéranto. L'illustration musicale est aujourd'hui due au groupe néerlandais Accordo qui va vous interpréter deux chants traditionnels croates destinés au dieu Lado, le dieu du printemps. Mais écoutons tout d'abord Ange Matteo qui va nous parler des relations entre l'espéranto et certains organismes internationaux.
Nous avons déjà évoqué les personnalités qui ont donné leur avis, qui ont parlé de l'espéranto. Aujourd'hui, ce ne sera pas une personnalité qui va parler, qui va évoquer l'espéranto, mais ce sera plutôt une institution, on va même dire une organisation internationale. Alors, nous allons parler de l'UNESCO. Alors, qu'est-ce que l'UNESCO ? Donc, c'est un organe de l'ONU, c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Donc, c'est une institution spécialisée du système des Nations Unies, qui a été créée en novembre 1945. Donc elle est principalement connue sous son acronyme anglais UNESCO. Donc les objectifs généraux de l'UNESCO, je cite, sont de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité dans le monde en resserrant par l'éducation, la science, la culture et la communication, la collaboration entre nations, afin d'assurer le respect universel de la justice, de la loi, des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, que la Charte des Nations Unies reconnaît à tous les peuples. Donc l'UNESCO poursuit son action à travers cinq grands programmes: l'éducation, les sciences exactes et naturelles, les sciences sociales et humaines, la culture, la communication et l'information. Le siège de l'UNESCO se trouve à Paris. Alors pourquoi parler de l'UNESCO ? Eh bien, tout simplement parce que l'UNESCO a évoqué l'espéranto, au moins par deux fois dans son histoire, par deux fois officiellement dans son histoire. Donc l'UNESCO a évoqué l'espéranto par deux résolutions. Une première résolution en 1954 et une deuxième résolution en 1985. Donc c'est intéressant puisque l'UNESCO est un organe officiel et un organe de l'ONU. Donc c'est une parole officielle du groupement des nations. Donc cela a démarré en 1950, où une pétition a été remise aux Nations Unies, signée par près d'un million de personnes et par des organisations représentant plus de 15 millions de membres. La pétition invitait simplement les Nations Unies à faciliter, par tous les moyens dont elles disposent, le développement de l'espéranto. Cette action devait provoquer les résolutions de l'UNESCO, donc une en 1954 et une en 1985. Dès cette année-là, 1954, UEA, c'est-à-dire l'Association Universelle d'Espéranto, est reconnue comme membre consultatif de l'UNESCO. Et donc, c'est lors du congrès de Montevideo, en décembre 1954, en Uruguay, qu'a été transmise la pétition de 1950 et qui adopte la première résolution en faveur de l'espéranto. Je cite quelques extraits de cette résolution. Donc la conférence générale, après discussion du rapport du directeur général sur la pétition internationale en faveur de l'espéranto, note les résultats obtenus au moyen de l'espéranto dans les échanges intellectuels internationaux et pour le rapprochement des peuples. Constate que ces résultats correspondent aux buts et idéaux de l'UNESCO. La conférence générale, toujours, note que plusieurs États membres se sont déclarés prêts à introduire ou à développer l'enseignement de l'espéranto dans leurs écoles primaires, secondaires ou supérieures, et invite ses États membres à tenir le directeur général informé des résultats obtenus dans ce domaine. Une nouvelle fois, la conférence générale autorise le directeur général à suivre les expériences concernant l'utilisation de l'espéranto pour l'éducation, la science et la culture, et à collaborer à cette fin avec l'Association universelle de l'espéranto dans les domaines intéressant les deux organisations. Donc c'est quand même intéressant puisque c'est une voix officielle qui parle, et ce dès 1954. Alors il y a eu ensuite une nouvelle résolution en 1985, c'était lors de la 23e conférence générale qui s'est tenue à Sofia en Bulgarie. Donc l'UNESCO a fait plus que confirmer son soutien à l'espéranto, exprimé à Montevideo en 1954, elle invite ses États membres et les organisations internationales non gouvernementales à célébrer avec éclat le centenaire de la langue internationale espéranto. C'est la deuxième résolution donc en faveur de l'espéranto. Donc ce groupement, donc la conférence générale, en 54 avait pris note des résultats obtenus au moyen de la langue internationale, qu'est l'espéranto, sur le plan des échanges intellectuels internationaux et de la compréhension mutuelle entre les peuples. Et la conférence générale reconnaît qu'ils allaient dans le sens des objectifs et des idéaux de l'UNESCO. La conférence générale rappelle que l'espéranto a depuis lors beaucoup progressé en tant qu'instrument de la compréhension mutuelle entre les peuples et cultures de différents pays, en pénétrant dans la plupart des régions du monde et la plupart des activités humaines. Cet organisme reconnaît les grandes possibilités qu'offre l'espéranto pour la compréhension internationale et la communication entre les peuples de différentes nationalités, et note la très importante contribution du mouvement espérantiste et en particulier de l'Association universelle d'espéranto, à la diffusion d'informations sur les activités de l'UNESCO, ainsi que par sa participation à ces activités. Et donc, ce qui est aussi intéressant, c'est que l'UNESCO va présenter ses félicitations au mouvement espérantiste à l'occasion de son 100e anniversaire. L'UNESCO va inviter les États membres à marquer le centenaire de l'espéranto par des dispositions appropriées, déclarations, émissions spéciales, timbres-poste ou autres, et à promouvoir l'introduction d'un programme d'études sur le problème des langues et sur l'espéranto dans leurs écoles et leurs établissements d'enseignement supérieur. Et recommande, d'autre part, aux organisations internationales non gouvernementales de s'associer à cette célébration du centenaire et d'étudier la possibilité d'utiliser l'espéranto comme moyen de diffuser parmi leurs membres toutes sortes d'informations, y compris sur les activités de l'UNESCO. Donc en fait, on peut dire que depuis 1954, l'Association universelle d'espéranto, UEA, dont le siège est à Rotterdam, entretient des relations officielles avec l'UNESCO et lui envoie régulièrement des comptes rendus, incite ses membres associatifs et ses associations adhérentes à collaborer activement avec l'UNESCO pour la réalisation de ses objectifs communs. Les deux résolutions que nous venons d'évoquer constituent nettement la reconnaissance de la valeur de l'espéranto par une importante organisation interétatique. Voilà pourquoi je pense qu'il était important d'évoquer donc ces deux résolutions de l'UNESCO qui montrent réellement une reconnaissance officielle de l'espéranto, de ses buts et de ses idéaux. À bientôt donc pour évoquer d'autres personnalités qui ont parlé de l'espéranto.
Nous voici maintenant avec Céline, chez Dorothée, plus précisément en plein air, sur sa terrasse, pour le cours d'espéranto. Alors, qu'avons-nous vu sur le plan grammatical dans cette sixième leçon du Junul Curso? nous avons vu des corrélatifs. Alors c'est un mot qu'on emploie de plus en plus souvent. Il y a 45 petits mots en espéranto qui sont organisés d'une manière extrêmement logique. Avec ceux qui commencent par « ka », en général, on pose une question. Par exemple, « kio », »,« quoi ». ».« Kiu », alors là, il faut choisir un élément d'un ensemble. Ça peut être « qui », ça peut être « lequel ». ».« Kia », la réponse est un adjectif. « Quelle sorte de » ou bien « comment », tout simplement. « Comment est le bateau » tout à l'heure, je vous ai demandé. « Kiel », la réponse est une manière. « Kie », la réponse est un lieu. Alors, comment répondre? On peut aussi bien répondre par un autre corrélatif. Par exemple, tio, si le corrélatif commence par un T, alors là, il s'agit d'un démonstratif. On montre. Tio, on montre une chose. On va dire cela. Si je vous demande quio estas tio, cela veut dire qu'est-ce que cela? Quoi est cela? Mot à mot. Si je vous demande qui ou lequel, vous pouvez me répondre tiu. Si je vous demande par exemple, vous voulez m'acheter un livre, qui ou libro, quel livre voulez-vous m'acheter? Vous pouvez me répondre tiu libro, ce livre. Ou bien tout simplement tiu, cela voudra dire alors celui-ci. Si je vous demande qui a, quelle sorte de, j'attends un adjectif, mais je peux attendre aussi « tia ».« Tia », cela voudra dire « de cette sorte », »,« ainsi ». Si je vous demande « qui elle », vous pourrez me répondre « tiel », »,« de cette manière ». On peut aussi dire « ainsi », »,« de cette manière ».« Qui est », là vous me répondrez, si je vous demande « qui est », je vous demande un lieu, et vous pouvez me répondre en me montrant « tie », là, ou plus près de vous peut-être, tie-chi, ici. Alors maintenant, les corrélatifs qui commencent par la lettre K peuvent être aussi utilisés dans des phrases affirmatives. Par exemple, minestias, qui est miestas, je ne sais pas où je suis, ou minestias, qui est liestas. Je vais prendre un autre exemple. Mi scias, qui est li estas. Je sais.
Je sais qui il est.
Non, je sais où il est.
Où il est. Ah oui, alors, bien sûr.
Oui, alors, oui, ça ne fait rien, Dorothée. Mi scias, qui est li estas, ça veut dire je sais où il est.
Où il est.
Le où introduit la proposition subordonnée relative où il est.
Oui.
La principale étant je sais, mi scias. Mais si je veux dire je sais qui il est, mi scias, kiu li estas. Donc j'ai employé un autre corrélatif commençant par la lettre K pour dire je sais qui il est. Je sais ce que c'est. Mi scias kio gi estas. Ou mi scias kio tio estas. Toujours avec un corrélatif. À la question kial, là on demande une raison. Eh bien on peut répondre généralement char. Parce que, car, évidemment, suivi d'une explication. On peut aussi répondre, on peut aussi dire, tial, pour cette raison. Mm-hmm. Avec la lettre T, on montre, et là, on montre une raison, pour cette raison. Qu'avons-nous vu encore comme petit mot? Al, pour dire, je vais à Stockholm. Mi iras al Stockholmo, par exemple. Che, que l'on peut traduire par « chez un tel », mais qu'on peut traduire aussi par « tout à côté ».« Mi estas che la tablo », »,« je suis à table ».« Inter », pour dire « entre ».« La hundo estas inter Johannino kaj Nico ». Le chien se trouve entre Jeanne et Nicolas. Voilà, nous passons aux exercices. Alors, Dorothée par exemple. Comment traduire « cela est une table »
Tiu.
Alors, tu hésites entre « tiu » et « tio ».
Oui.
Céline, une idée ?«
Tiu ».«
Tio ». Voilà. « Cela », c'est cette chose-là. Donc, il faut prendre le corrélatif qui correspond à une chose. Tio. Tio estas...
Tio estas... Tablo.
Tablo. Maintenant, si je vais dans un magasin pour acheter une table, tu voudras par exemple acheter tiun tablon, cette table. D'accord? Ou tu parleras, tu diras tiu tablo, cette table, estas bella, est belle. Tiu tablo estas granda. Donc, tio, tio estas tablo, tu vas te servir de tio pour définir ce que tu montres. Cela. Et maintenant, si tu veux choisir parmi plusieurs tables, tu vas dire cette table. Là, tu utilises donc un terme un petit peu plus précis et tu vas dire tiu tablo, cette table. Ou bien tiu toute seule, tiu tout seul, pour dire celle-là. Céline, cela est un fruit.
Tio estas fructo.
Très bien. Donc, sans ambiguïté, tio. Les oreilles de ce camarade sont longues, Dorothée. Oreille se dit
Oreloi. Oreloi. Ouais.
Alors, comment dire les oreilles de ce camarade?
De tio.
Oui.
Parce que c'est précis.
Parce que c'est précis, parce que parmi les camarades, oui. C'est parmi l'ensemble des camarades, comme on dirait en mathématiques, c'est ce camarade-là, c'est un élément d'un ensemble. Donc, la oreloi de tiu camarado sont longues.
Estas longoi.
Estas longai.
Longai.
Yes.
Sed.
Mais le nez est petit.
Sed. Le naso.
La naso.
Naso estas malgranda.
Très bien. Mais le nez est petit. Sed la naso estas malgranda. Céline? Cet homme est grand.
Tiu.
Oui.
Cherche homme.
Viro.
Oui, viro. Tiu viro estas alta.
Oui, granda ou alta. Oui, très bien. Donc, alta pour haut, oui, on peut le dire pour un homme. Donc, tiu viro estas alta. Et tu as bien choisi tiu, effectivement, parmi l'ensemble des hommes. C'est celui-là, tiu, viro. Dorothée, cet oiseau vole rapidement. Cet oiseau.
Tiu.
Oui.
Je sais plus l'oiseau.
Comme en anglais, birdo.
Birdo.
Voilà, ça rappelle le bird.
Tiu birdo flugas rapide.
Très bien, et chante bien.
Kai. Cantas.
Yes.
Belle.
Belle et bonne, comme on veut. Très bien. Alors, on peut aussi mettre l'adverbe avant le verbe. Tiu birdo rapide flugas, kai belle cantas. Mais c'était très bien aussi, comme tu l'as dit.
Bon matin, nos espagnols, allez via familia, yen la veris, le canteto, le canteto, et la vineto, et donu, donu, allez espagnols, minio, becu, la finino.
Pourquoi chanter, Céline?
Qui a le canti?
Yes, qui a le canti? Pourquoi, donc, corrélatif de raison? Parce que je suis gay, Dorothée.
Char mi estas gioia.
Gioia, joyeuse, ou gaia,
gay,
mais bon, c'est pratiquement synonyme. Char mi estas gaia. Pourquoi aller à Stockholm?
Pourquoi? Kial iri al
Stockholmo.
Stockholmo.
Voilà, en prononçant bien le H intérieur, ce qui n'est pas facile. Kial iri al Stockholmo. Très bien.
parce que là, des camarades attendent.
Char. Tio.
Corrélatif de lieu. Pas tio. Corrélatif de lieu, Céline.
Char tille.
Tille, très bien. Char tille.
Ah.
Char tille. Des camarades attendent.
Des amigos.
Alors, amicoi, si tu veux.
Attendi. Attendas.
Yes, au présent. Attendas. Char tille. Amicoi attendas ou ge amicoi attendas. Et pour dire camarade, on peut dire camaradoi. Ou encore gay camaradoi, s'il s'agit de camarades garçons et filles. Donc, peut-être que la meilleure réponse serait char tille, gay camaradoi attendas. Je dirais la réponse la plus complète, peut-être. À table, je mange.
C'est dur, là.
Alors,
je dirais che tablo.
Eh oui, che la tablo.
Che la tablo, mi mangias.
Très bien. Au lit, je dors.
Che la lito, mi dormas.
Yes, mi dormas. Alors, che, on peut aussi dire sur la lito, sur le lit, ou en la lito. Voilà, il y a plusieurs possibilités. À l'école, j'apprends. Alors, lerni, apprendre, et le lieu où l'on apprend, c'est...
Lerneio.
Voilà ce qui me manque.
Peut-être N, cette fois-ci.
N, lerneio. Mi lernas.
Voilà, en la lernejo mi lernas. Bonne. Je vais à l'école et j'apprends. Céline, je vais.
Mi iras en la lernejo kai mi lernas.
Alors, il y a un petit point de grammaire, pas très grave. Mi iras al la lernejo.
Ah oui, parce que c'est un mouvement.
Plutôt que en, parce que si tu dis mi iras en, la notion de mouvement devra être ensuite traduite par un accusatif et on dira mi iras en la lernejon. Voilà. L'accusatif, c'est la lettre en qu'on mettra à la fin de ce mot lernejo. Comme nous n'avons pas encore vu cette possibilité, on va simplement dire mi iras al la lernejo kaj mi lernas. Où sont les livres? Corrélatif de lieu.
Oui, corrélatif de lieu. Qui y a?
Mais, ça c'est la raison. Céline?
Qui est?
Yes, qui est?
C'est quand même terrible.
Elle mélange tout.
Non. Mais je vais rappeler à nos amis auditeurs que Dorothée a pratiquement court-circuité la première année et se trouve déjà en deuxième année. Donc,
oui, mais le résultat est médiocre.
Non. Il manque juste un tout petit peu de pratique d'habitude. Alors, où sont les livres?
Qui a, estas?
Qui est? Qui est?
Qui est, estas? Les libros.
La libroi.
La libroi.
La libroi. Qui est, estas la libroi? Là, sur la table.
Qui est sur la table?
Très bien. Entre ces deux objets.
Inter tiou
yes
tiouille.
Yes
dou objectoi.
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 Oui, il n'y a pas d'accent sur le J de objectoi. Donc tie sur la table inter tiouille dou objectoi. Très bien. Où sont les cheveux?
Qui estas haroi.
La haroi, oui, plutôt avec l'article défini. Qui estas la haroi? Qui estas la haroi? Là, sur la tête.
Tie. Sur la capo.
Très bien. Tie sur la capo. Cette camarade est-elle grande?
Chou. Tiu camaradino. Estas granda.
Très bien. Ciu tiu camaradino estas granda. Qu'est-ce que cela?
Kio estas tio.
Kio estas tio. Très bien. Qu'est-ce que cela? Quoi est cela? Eh bien, très bien. Et nous finissons sous le chant d'un verdier, donc qui n'est qu'à quelques mètres de nous. Nous entendons donc les oiseaux sur la terrasse de la maison de Dorothée, qui nous a gentiment accueillis aujourd'hui. Eh bien, nous avons terminé cette sixième leçon. Nous allons dire au revoir à nos amis auditeurs. Céline.
Au revoir.
Mais en espérant.
Gis rebido.
Gis baldao. À bientôt.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'en profite pour vous rappeler que nous tenons à votre disposition des documents écrits pour suivre ce cours plus confortablement. Voici nos coordonnées. Groupe espérantiste Périgourdin, 17 lotissement de l'aérodrome, 24 330 Bassillac. Par téléphone 05 53 54 49 71 et par internet Esperanto Périgord, en un seul mot, @yahoo.fr. N'hésitez pas à nous contacter également pour nous donner votre avis. À très bientôt. Gis baldao.
Gis baldao.
Gis baldao.
Gis baldao.
Gis baldao.
Gis baldao.
Gis baldao.